Bien. Alors, le mouvement ATD Quart-Monde, je vais vous dire de quelle manière, d'abord je vais faire un peu d'historique, de quelle manière il a été informé d'une aventure qui est née autour des années 1993, à la suite d'un certain nombre de personnes, dont Jacques Nikonoff, qui a été l'organisateur des témoignages qui sont rassemblés dans ce livre « Chômage, nous accusons » et qui est paru en 1998. Et à cette époque-là, donc, ces gens qui se sont réunis ont créé une association qui s'appelait UTC, un travail pour chacun. Et donc, ce groupe de personnes a établi que finalement, par rapport au travail, il y a des besoins satisfaits qui sont immenses. Donc, lorsqu'on nous entend, on nous dit qu'il n'y a pas de travail, c'est que on n'est pas du tout intéressé de finalement satisfaire nos besoins utiles, hein, élémentaires. Donc, prenant conscience que les besoins sont immenses, et ensuite faisant l'inventaire de ce que coûtait en ce temps-là ce qui servait à permettre aux chômeurs de survivre, eh bien, on en est arrivé à faire prendre conscience que c'était un trésor de guerre absolument fabuleux. Et que donc, en fait, une fois qu'on avait établi le principe que les besoins sont immenses, que l'argent était là disponible pour pouvoir éventuellement permettre à des gens de répondre aux besoins qui étaient là, et donc travailler, eh bien, il n'y avait plus qu'à se mettre au travail, nous, pour faire en sorte que ça fonctionne. Alors, c'est un temps où j'habitais pas à Conques, mais j'habitais dans le Loir-et-Cher. Et dans le Loir-et-Cher, donc, nous sommes retrouvés une trentaine de personnes à la limite de la prise de retraite ou déjà en retraite. Et on était dans cette dynamique de se dire, il y a certainement quelque chose à faire aussi sur le département du Loir-et-Cher. Avec nos relations, notre réseau, finalement, on a sollicité une communauté de communes de 12 000 habitants qui se trouvaient au sud du département. Hein, c'était la communauté de communes de Saint-Aignan, sur Cher. Et on a été voir les élus pour leur parler de cette proposition de faire chez eux un inventaire des chômeurs existants, de faire l'inventaire de ce qu'ils étaient capables de réaliser eux-mêmes, puisqu'ils avaient déjà une formation, ils avaient déjà travaillé ici ou là, et puis ensuite de faire l'inventaire dans le secteur non marchand, et en éliminant tout le secteur de la santé et de l'éducation, pour savoir si on allait trouver du travail pour les 700 chômeurs qui se trouvaient sur cette communauté de communes. Il faut savoir que c'est une communauté de communes rurale qui, d'une certaine manière, peut ressembler assez bien à la communauté de communes de Conques-Marcillac. Et donc, on s'est mis au travail pour aller rencontrer, bien sûr, déjà les élus, pour rencontrer toutes les personnes qui étaient en lien avec le milieu associatif, toutes les personnes qui, les petites entreprises, ainsi de suite, quoi. On avait même sollicité des étudiants qui étaient en BTS pour venir faire eux-mêmes aussi un questionnaire et répondre aux questions. Et une fois qu'on a eu rassemblé cela, eh bien, on était arrivé à l'évidence que, des fois, un quart de temps plus un quart de temps plus un demi-temps, ça fait un emploi, et ainsi de suite. Donc, vraiment, c'était du rassemblement, Et comme déjà, dans ce temps-là, les groupements d'entrepreneurs existaient, donc les groupements d'entrepreneurs pouvaient, eux, avoir à disposition des gens qui pouvaient aller un petit peu faire un demi-temps ici, et trois quarts de temps là, et ainsi de suite. Et donc, on était arrivé au fait que l'inventaire des chômeurs bon, était là, les besoins étaient là aussi, comme on avait fait l'évaluation que l'argent dépensé pour ces chômeurs était monstrueux, très très rapidement, on s'est dit, on va aller voir maintenant les élus, rassembler toutes les parties prenantes qui étaient en lien avec le chômage et les financeurs finalement de toute cette mécanique-là. Et donc on s'est rassemblés, on leur a dit, ben voilà, on a tout ce qu'il faut pour que ensemble on se mette au travail pour favoriser des emplois avec ces personnes qui sont là au chômage. Alors on nous a écoutés avec bonheur. Et puis à un moment donné, quand on leur a dit que pour réussir à faire ça, il fallait quand même que l'argent qui était géré ici, qui était géré là, que j'étais géré là ou que j'étais qui était géré là, soit rassemblé dans un tronc commun. Et c'est là que les choses ont commencé à être très compliquées. Tout simplement parce que chacun avait son pré carré et qu'il s'agissait pas d'aller prendre un peu d'argent là pour aller le mettre autre part. Ce qui fait que, en fait, avec l'organisation en France, on ne peut pas prendre l'argent qui est dévolu ici pour le mettre là. C'est impossible. Il faut des lois d'exception. Et donc, notre grand travail qui avait été fait, qui a été rassemblé dans un livre blanc, qu'on a envoyé au ministre du Travail, au Premier ministre, et même peut-être bien, je ne sais plus, au président de la République de l'époque, on n'a pas eu de retour, rien du tout. Alors quand je dis « on », c'est que nous, sur le Loir-et-Cher, on avait notre groupe, mais UTC n'était pas une association locale, c'était une association à dimension nationale. Et donc, il y avait des groupes de notre genre qui se trouvaient, entre autres, à Sèche-sur-Loire, un autre au Grand Quevilly, ainsi de suite, et on se réunissait régulièrement à Paris, puisque Paris centralise souvent les choses, pour faire le point ensemble et avancer dans notre travail de recherche. Voilà. Moi, j'ai quitté le Loir-et-Cher en 2005, et en fait, quasi en 2004, les choses étaient quasi closes et on n'a pas pu avancer. Or, le groupe qui travaillait sur Sèche-sur-Loire, et dont l'animateur était Patrick Valentin, lui avait quand même tenté de faire avancer un peu plus les choses, et pendant à peu près 8 mois, il a réussi à mettre en route doucement les idées qui avaient émergé de notre travail. Mais à un moment donné, il s'est retrouvé sans ressources, puisqu'il butait contre le fait qu'on ne pouvait pas mettre ensemble l'argent utilisé pour indemniser les chômeurs. Et on en est resté là. Sauf que, en 2003, il y a une loi qui est apparue et qui permettait au territoire de faire des expérimentations. Donc un petit point qui pouvait peut-être doucement à permettre de faire en sorte que, on avance dans des chemins inhabituels. Et puis le temps a passé, il a fallu attendre 2011 pour que, je ne saurais pas vous dire de quelle manière, Patrick Valentin, qui était un homme d'une ténacité absolue, a rencontré des gens du mouvement ATD Quart-Monde. Il leur a parlé de sa préoccupation de 20 ans. A convaincu les gens de ATD que cette idée-là, simple, pouvait peut-être être mise en place. En 2014, il y a un élu qui s'appelle Laurent Grand-Guillaume, un élu PS des Côtes d'Or, qui a été très intéressé par l'idée, a su rassembler une trentaine d'autres élus, et ils ont mis en place donc une proposition de loi, et cette loi a été enregistrée en juillet 2015. Vous voyez comme ça, comment le temps passe. Et en 2016, le 29 février, une chance, hein, 2016, il y avait 29 jours, le 29 février 2016, une loi d'expérimentation territoire zéro chômeur longue durée a été votée à l'unanimité par les sénateurs et les députés. Chose rare. Mais toujours est-il que ça s'est fait. Et donc du coup, en juin 2016, il y a eu la mise en place du fonds d'expérimentation territoriale qui a été mis en place. Et en novembre 2016, habilitation de 10 territoires d'expérimentation. Parce que cette loi d'expérimentation était fondée sur 10 territoires répartis sur le territoire français. Donc, depuis, disons, bientôt un an, la loi d'expérimentation est en travail, est en route. Or, chose étonnante, on verra tout à l'heure, quand je vous montrerai la répartition, aussi bien sur la Nouvelle-Aquitaine que sur l'Occitanie, il n'y a pas un seul territoire zéro chômeur longue durée. C'est quand même triste. Donc c'est pour ça que notre petite équipe ATD Carmonde, qui s'est enrichie de gens qui ont entendu parler de ça et que ça dynamisait, on s'est dit, il faut vraiment quand même qu'on le fasse savoir que cette loi d'expérimentation existe. C'est la raison pour laquelle les jeudis en question d'aujourd'hui sont un avant-propos du 21 octobre 2017 qui sera une très très grande journée sur le territoire zéro chômeur, enfin sur l'emploi d'une manière générale, hein, rassemblant des témoignages de tous les acteurs qui œuvrent aujourd'hui sur le territoire et un peu plus, des témoignages de cette expérimentation qui est en route. Donc, notez sur votre agenda, 21 octobre, la salle des fêtes de Marcillac, une grande journée, bientôt vous aurez, il y aura des tracts et des affiches, qui vous accueillera à partir de 9h30 et qui se déroulera sur toute la journée. Voilà. Alors voilà l'historique un peu quand même de ces choses. Et vous pouvez comprendre que moi, quand j'ai vu ressurgir à l'intérieur du mouvement ATD Carmonde cette mise en place là, quel bonheur pour moi, puisque pendant 10 ans, j'ai œuvré pour faire en sorte qu'on y arrive. Et donc, il aura fallu 10 ans de plus pour que, enfin, les choses soient en action. Ce qui prouve qu'il faut savoir être d'une patience extrême et d'une, comment dirais-je, et d'une persuasion que lorsqu'on défend une cause forte, elle peut un jour émerger. Alors, de quoi s'agit-il maintenant? Parce qu'il ne faut pas oublier que nous, lorsque on s'est mis en route là, c'était pour tous les chômeurs. C'était pas seulement pour les chômeurs longue durée. Hein. On n'avait pas d'exclusive. Il n'empêche que le fait de le cibler sur les chômeurs longue durée, c'est vraiment primordial. Parce que si les chômeurs sont sans travail depuis plus d'une année, hein, et si on prend les statistiques, sur théoriquement, 2 460 000 chômeurs. Il y en a 45% qui ont entre 1 à 2 ans de chômage, 21,5% de 2 à 3 ans et 33,6% de plus de 3 ans. Vous pouvez imaginer l'état d'esprit d'une personne qui est au chômage depuis 3 ans et de tout ce qu'il y a autour de cette personne-là. La situation familiale, les enfants qui voient ça, sans doute des phénomènes d'addiction qui peuvent être entraînés, les phénomènes de santé aussi, enfin, tous les drames qui tournent autour d'une personne qui est au chômage. Voilà. Alors, donc, en quoi consiste cette loi et ce qui la motive, finalement? Eh bien, les fondements, c'est, premièrement, une chose fondamentale, personne est inemployable. C'est un postulat que le mouvement ATD Quart-Monde pose. Et cela, il peut le dire au travers du fait, justement, je vous ai parlé tout à l'heure de cette entreprise ATE qui se trouve à Noisy-le-Grand et qui est en expérimentation maintenant depuis plus de 5 ans, et où là, il y a des gens qui étaient soi-disant inemployables. Et finalement, la démonstration est faite que c'est faux. Alors donc, premièrement, tout le monde est capable de travailler. Deuxièmement, ce n'est pas le travail qui manque, puisqu'il y a de nombreux besoins non satisfaits, et ils sont immenses. Et troisièmement, ce n'est pas l'argent qui manque, car il y a beaucoup de dépenses et de manques à gagner que la collectivité prend en charge. Et on l'a démontré, voilà, je peux tout de suite peut-être sauter sur ce point-là, à savoir que chaque année, l'État dépense 36 milliards d'euros. 36 milliards d'euros aujourd'hui. Et ceux-ci se répartissent en 35% de manque à gagner à travers des impôts, des cotisations sociales qui ne sont pas perçues. Il y a 26% de ces 36 milliards qui sont en dépenses sociales. Hein, le RSA, allocation adulte handicapé, allocation logement et tout le reste. Il y a des dépenses liées à l'emploi, 19%, allocation spécifique de solidarité, accompagnement et ainsi de suite. Et enfin, les coûts induits, hein, donc qui sont dans le domaine du logement, de la santé, de la sécurité, de la protection de l'enfance. 36 milliards. Avec ça, on peut quand même faire des choses, hein. Croyez pas ? Alors donc, les objectifs de l'expérimentation, c'est de, avant tout, de démontrer que c'est possible. Parce que, évidemment, hein, comme toujours, on est dans les gens qui vont vous répondre, c'est l'utopie. Bon, eh bien, justement, dans ce livre-là, on démontre que les utopies, elles peuvent être réalistes. Donc, je vous invite à lire ce livre. Il vous démontrera que depuis déjà des années et même plus de plusieurs siècles, des expérimentations ont été faites, hein, par rapport aux gens qui n'avaient pas d'emploi, qui étaient dans la pauvreté et qui finalement ont démontré que celui qui est pauvre et qui n'a pas de travail, eh bien, il se complaît dans cela. C'est une vérité vraiment horrible. C'est pas vrai. Les gens, ils ont tous besoin de travailler rien que pour retrouver leur dignité, leur honneur. C'est fondamental, ça. Alors donc, démontrer que c'est possible, sans surcoût pour la collectivité, puisque cet argent qui est passivé aujourd'hui dans une distribution peut être utilisé pour rémunérer des personnes qui vont travailler. Et d'autre part, dans cette proposition, il s'agit non pas de proposer un emploi à durée déterminée, hein, c'est-à-dire que hop, on va jusqu'à 2 ans, ainsi de suite, et puis paf, après la personne se retrouve à zéro et elle recommence un parcours. Là, ce sera un emploi à durée indéterminée et à temps choisi. Donc deux éléments fondamentaux qui vont changer la donne par rapport à ce qui est proposé aujourd'hui, hein, par plein d'associations ou de gens qui sont dans le désir de faire en sorte que les personnes aient un travail, mais finalement sans issue, ou une issue qui est relativement courte. Alors, donc l'expérimentation nous permettra d'observer l'impact sur les territoires, parce qu'en fait, de plus, cette expérimentation va se faire sur des territoires à dimension humaine. Ça va être 10 000 habitants, autour de 10 000 habitants. Il ne s'agit pas de faire ça sur des grandes masses ou des grandes surfaces. Non, il faut faire ça sur des secteurs très localisés où la dimension humaine est fondamentale, puisque nous allons ensemble finalement être artisans de cette action qui va permettre que les gens qui sont au chômage depuis longtemps retrouvent un emploi. Et bien sûr, derrière ça, il y aura un bénéfice sur le plan humain, sur le plan sociétal et sur le plan économique. Et alors, la troisième chose, le troisième objectif pour cette expérimentation, c'est de vérifier la viabilité économique. Évidemment, parce qu'on est toujours dans cette vérification. Est-ce que ça va marcher? Voilà. Et alors, il y aura, au bout de, puisque c'est une loi expérimentale qui est fondée sur 5 ans. Donc, la loi a été votée en 2016 et le bilan sera fait en 2021. Et une année avant la fin de cette expérimentation, eh bien, il y aura un bilan qui sera réalisé par le fonds d'expérimentation territoriale, et un comité scientifique qui se chargera d'évaluer cela pour savoir si, eh bien, on arrête ou on poursuit. Mais il n'est pas question de s'arrêter, évidemment. Quand les gens qui ont mis tout ça en place ont le désir d'arriver à un bon résultat, eh bien, on se donne les moyens pour. Et pour cela, le projet va se dérouler en 3 étapes. La première, c'est donc les 10 territoires qui ont été choisis, et qui vont expérimenter sur de 2016 à 2021. Mais dès 2017, c'est-à-dire maintenant, il va y avoir une mobilisation pour 30 à 40 territoires nouveaux. Donc en fait, d'une certaine manière, ce soir et le 21 octobre, on va être dans cette perspective-là, de faire en sorte que, en Aveyron, il y ait des élus et des gens de la société civile qui aient envie vraiment qu'il n'y ait plus de chômeurs longue durée sur le territoire, sur un territoire. Et alors, donc, parce qu'il est prévu dans cette loi d'expérimentation que en 2019, il y ait une seconde loi d'expérimentation où là, on mettrait en place 100 territoires. Donc de 10, on passerait à 100. Ce qui commence déjà à commencer à avoir une belle ampleur. Et donc, en 2021, on pense qu'il y aura une loi du droit d'option pour tout territoire. C'est-à-dire que là, ce sont, puisque on aura démontré que ça marche, eh bien, on peut penser, espérer, que les élus, la société civile, eh bien, ont envie de faire en sorte que, eh bien, partout, donc le plus de territoires possible en France, eh bien, cette initiative se mette en place. Alors, quels sont les principes fondamentaux? Le premier, c'est celui-ci. Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Et c'est la conjugaison de ce devoir et de ce droit qui permet à l'homme de retrouver sa dignité. Hein? Dehors, devoir et droit, deux points d'appui permettent à l'homme d'être dans sa dignité. C'est fondamental, ça. C'est une loi humaniste de base. Et c'est ce qui, d'ailleurs, est précisé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors donc, il y a six principes dans l'application de cette expérimentation. Il faut d'abord que la personne ait été sans emploi au moins pendant un an. Et que cette personne se trouve vivre sur le territoire investi au moins pendant 6 mois. Ce sont les deux bases. Deuxièmement, on fera une embauche non sélective. C'est-à-dire que on va demander à la personne qui est dans cette demande d'emploi de nous dire son savoir-faire, de nous dire ses envies et de nous dire ses possibilités. Et il y aura la date de candidature qui jouera son rôle quant à une embauche. La qualité de l'emploi, ça sera une grande sécurité puisqu'on va embaucher les personnes en CDI. Et de plus, la personne qui sera embauchée sera acteur dans l'entreprise. Donc, et ça, cette entreprise s'appelle EBE, entreprise à but d'emploi. Il va y avoir donc une entreprise EBE qui va être créée avec des statuts qui peuvent varier et qui va se donner deux missions. La première, donc faire l'inventaire de toutes les personnes volontaires qui ont envie de venir travailler dans cette entreprise, hein, et qui auront donc déterminé leur savoir-faire, leur désir, hein, d'une part, et d'autre part, rechercher tous les besoins à satisfaire sur le territoire. Voilà. Voilà donc les six principes sur lesquels on s'appuie pour pouvoir réussir à mettre cela en place. Alors bon, je reprends pas le modèle économique, hein, le coût de la privation d'emploi, hein, puisque je vous ai donné la répartition tout à l'heure, hein, 36 milliards, hein, avec les différentes répartitions de l'argent qui est dépensé pour cela. Et alors, donc, compte tenu de cet argent disponible, on estime que la réallocation de ces coûts devrait permettre de couvrir de 70 à 100% le coût d'un poste à temps plein payé au SMIC. Voilà. En fait, en réalité, l'avantage de cette EBE qui va répondre à des besoins au travers donc d'emplois pour les personnes, eh bien, ces personnes, elles vont réaliser un travail. Bon, ces personnes vont être rémunérées, donc sur un minimum au SMIC. Bon, bien, 70% au minimum du salaire sera payé grâce au fait que on va avoir un fonds qui va servir, un fonds d'État, disons, qui va servir et récupérer sur les 34 milliards dont j'ai parlé tout à l'heure. Bon. Et l'entreprise va faire donc des travaux. Donc elle va pouvoir les facturer, hein, aux gens qui vont profiter de ces travaux. Voilà. Voilà, en gros, le mode de fonctionnement. Alors, pour faire en sorte que les choses se mettent en place, eh bien, il y a toute une démarche qui est mise, qui est proposée. En premier lieu, la création d'un comité de pilotage et de mobilisation. Hein ? Non seulement donc les élus, les communautés de communes ou les mairies ou tous ces organismes donc administratifs, mais aussi d'autres acteurs qui vont pouvoir s'associer, éventuellement pourquoi pas les syndicats, pourquoi pas eh bien des entreprises qui sont déjà à œuvrer par rapport aux problèmes de l'emploi, ainsi de suite. Hein? Donc, et tout ceci dans la démarche sur le territoire d'un plein emploi volontaire. Il ne s'agit pas d'imposer aux gens quoi que ce soit. L'expérimentation va se faire avec des gens volontaires. Il faut que ça réussisse. Hein. Il faut donc qu'il y ait de la part des personnes qui vont être embauchées une volonté participative de coopérer ensemble. Et pas d'être dans un isolement, mais au contraire de faire ensemble. Alors, donc, on va identifier les personnes privées d'emploi depuis plus d'un an, hein, et qui vont souhaiter rejoindre cette démarche. Et les questions de base qu'on va leur poser, c'est: qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Et qu'est-ce que vous acceptez d'apprendre? Hein? Ceci pourquoi? Parce que, évidemment, on peut imaginer que les personnes n'ont pas toujours la formation ajustée par rapport besoin à réaliser, hein, ou besoin utile à réaliser, hein. Et comme dans le cadre du mouvement ATD Quart Monde, le principe c'est de n'oublier personne, donc les personnes les plus précaires, hein, qui ont, eh bien évidemment, il faut ne pas les oublier, ces personnes-là, et qu'on se retrouve encore avec des personnes qui sont rejetées. Non, toutes les personnes sont employables. Et donc, on ne les oubliera pas. Alors, maintenant, quels travaux pourraient être faits, puisqu'il s'agit d'être... on est dans le secteur non marchand, et il ne s'agit pas de rentrer en concurrence avec des entreprises qui répondent déjà à un certain nombre de besoins. Hein? C'est pour ça que l'inventaire des besoins doit être fait avec énormément d'attention et que l'on vérifie que ces besoins sont utiles, hein, à la collectivité. Et alors pour cela, eh bien, il y a 8 secteurs d'activité qui ont été regroupés. Alors je vais vous les dire rapidement. Alors bien sûr, vous allez dire, mais déjà ça existe. Oui, ok, mais en partie, pas dans la globalité. Et ça existe peut-être ici, mais peut-être pas là. Hein, puisqu'on est dans un concept de territoire à dimension humaine. Alors, quels sont les besoins permettant de proposer des emplois utiles? Eh bien, dans le recyclage et le réemploi. Dans l'animation, sport, loisirs et culture. dans les services aux collectivités, entreprises et associations, dans l'agriculture, dans les services à la population, dans les services à la personne, dans le bâtiment. Voilà, donc 8 secteurs d'activité où là déjà, tout à l'heure, peut-être pour répondre un peu plus largement à vos questions, eh bien, on pourra vous montrer déjà dans quel secteur chaque territoire est en action et a déjà embauché des personnes. Et alors donc, toutes ces démarches dont je viens vous parler, eh bien, elles se font non pas les unes après les autres, mais il y a des interférences entre elles, et donc on peut fonctionner et donc avancer plus rapidement dans la détermination de ces étapes. Alors, donc ça j'ai fait. Alors, comment finalement ça fonctionne tout ça? Eh bien, en tête, il y a l'État qui a mis en place cette loi d'expérimentation. Je rappelle, votée par tous les élus, Sénat et l'Assemblée nationale. Au-dessous de ça, il y a un fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage longue durée qui est mis en place. De là, il y aura un comité de pilotage local pour déterminer le territoire, pour veiller à la non-concurrence et pour préciser les objectifs et contrôler l'action. Il y aura, au travers d'un cofinancement et de convention, la création d'une EBE, entreprise à but d'emploi, qui recensera les compétences des personnes à embaucher et l'identification des besoins. Les collectivités territoriales, conseils régionaux, départementaux, structures intercommunales et communes, eh bien, joueront leur rôle par rapport à la création de ce fonds d'expérimentation et au comité de pilotage local. Il y aura le recrutement au CDI, étant choisi pour les personnes privées d'emploi volontaire. Et au-delà de l'embauche, eh bien, on découvre que finalement, eh bien, il y a du travail qui se génère en plus que ceux que les personnes qu'on va embaucher pour répondre aux besoins, puisqu'il y aura besoin de support administratif, de formation, de transport, de garde d'enfants, et ainsi de suite. En sorte que les personnes que l'on va embaucher trouvent déjà les solutions à leurs problématiques. Puisque elles auront peut-être besoin de faire garder leurs enfants, ou de suivre une formation, et ainsi de suite. Donc, d'une certaine manière, l'EBE génère déjà, rien que pour son animation, des emplois nouveaux. Alors, je pourrais ainsi dire tout raconter. Maintenant, vous allez avoir le temps de la réflexion pendant que vous allez voir quelque chose ou regarder les livres. Et puis, tout à l'heure, je serai à votre disposition pour répondre plus précisément à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur la loi, sur les personnes concernées, sur les modalités d'embauche, sur les acteurs impliqués et sur les activités et emplois proposés. Et sur d'autres questions, évidemment encore, peut-être plus philosophiques, sur le travail.
Merci, et donc, pour le timing, c'est bon. Donc maintenant, vous pouvez dégourdir les jambes et l'esprit en parlant de vos voisins, en donnant voir...